Bonjour à tous, bienvenue sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Biotine tous les samedis entre 12h et 13h. La rediffusion le mardi matin, 10h. Biotine, c'est l'émission de l'actualité scientifique que vous propose Graphite depuis un certain temps déjà. Je m'appelle Jean-Noël, je suis très heureux de vous retrouver pour cette émission. Vous nous suivez sur le 94.9 pour ceux qui nous écoutent sur la bande FM, mais également sur graphite.net pour ceux qui nous écoutent sur Internet. Et puis, une nouveauté que nous avons découvert ensemble la semaine dernière, c'est cette application Radio Player France qui vous permet également d'écouter Graphite avec votre smartphone. Donc maintenant, vous n'avez plus aucune excuse maintenant pour pouvoir nous écouter. Vous avez maintenant plein de possibilités, bien sûr, pour nous suivre. Biotine, aujourd'hui, 25 janvier, nous allons faire un petit peu le point sur l'éphéméride. Que s'est-il passé un 25 janvier au niveau sciences et techniques? C'était le premier vol du Boeing 777X. C'était en 2020, il y a 5 ans, donc. À l'aéroport du Painfield à Everett. C'est pas loin des usines Boeing qui en ont assemblé les pièces. Ah, le Boeing 777X, il a fait parler de lui depuis, bien évidemment. Naissance, un 25 janvier 1627. Oula, on monte loin, on remonte au XVIIe siècle. Robert Boyle, c'est un physicien et un chimiste irlandais qui est donc né ce 25 janvier. Deux passions vont un petit peu suivre sa vie, le christianisme et la science expérimentale. C'est quand même assez intéressant d'avoir ces deux piliers, ces deux passions. Robert Boyle peut être considéré comme le père de la philosophie naturelle moderne. Il a fait des expériences et notamment il découvre en 1662 la loi qu'on appelait depuis la loi de Boyle-Mariotte, parce que Mariotte, il l'a découvert presque en même temps que lui, de façon un peu indépendante. Donc on a mis les deux noms et on a fait cette loi de Boyle-Mariotte. En fait, les conclusions de Boyle l'amènent à considérer la matière comme composée de particules primaires. Et ce qui est assez intéressant, c'est que nous sommes en 1662, il va donc rejeter une conception assez antique qui disait que toute matière était formée à partir des quatre éléments, la terre, l'air, l'eau et le feu. Non, pour lui, c'est composé de particules primaires. Il devient donc un précurseur à la théorie des atomes sur des bases expérimentales. C'est assez révolutionnaire, bien sûr, à l'époque. C'est Robert Boyle qui est à l'origine de cela. Décès le 25 janvier 1945 de René Carmille, officier d'état-major et résistant français, polytechnicien, contrôleur général des armées. Il crée sous l'occupation le Service national des statistiques. C'est ce qui va donner l'INSEE. En 1946, il va également créer le numéro de code individuel. Ça va devenir à la Libération le numéro de sécurité sociale qui est toujours utilisé aujourd'hui. Tout ça vient donc de René Carmille qui est donc décédé le 25 janvier 1945 à Dachau. Il a été déporté. Voilà au niveau donc de cette éphéméride. Pas mal de choses que nous allons évoquer dans cette émission au niveau de l'actualité scientifique. On va parler un peu de tout, il n'y aura pas du tout de fil conducteur. Moi, je préfère vous dire tout de suite, parce que j'essaye de piocher, je dirais presque un peu au hasard, les différents articles que l'on peut trouver dans les différentes revues de vulgarisation scientifique ou de sites internet. Vous avez Sciences et Avenir, Sciences et Vie, vous avez Futuration sur internet. Ce sont des sites qui sont bien faits, qui vous donnent une information scientifique accessible. Et c'est ça qui est intéressant, bien sûr. Et donc, il y a pas mal d'articles qui parlent de pas mal de sujets. Ce sera multi-thématique aujourd'hui. Ce sera pas multi-carte, mais multi-thématique pour cette émission. Et on va parler des feux d'artifice. Alors, en plus, on est au mois de janvier, on n'en fait plus, les feux d'artifice. On constate que les feux d'artifice posent de sérieux problèmes. Leur impact sur la biodiversité, et notamment les oiseaux en particulier, ne fait plus de doute aujourd'hui. Les feux d'artifice sont aussi responsables de nombreux incendies, mais ils ont également d'autres conséquences qui impactent notre santé. En fait, les feux d'artifice sont un mélange de composés oxydants. Il y a du nitrate, il y a du chlorate, mais aussi du soufre, il y a du carbone, et puis il y a des matériaux qui sont ajoutés, notamment des métaux. Il y a des combustibles, il y a de nombreux additifs, tout ça pour avoir des couleurs. Et donc avec une telle composition, impossible de ne pas relâcher des substances polluantes, notamment du carbone, des métaux lourds et des particules fines. Il y a une étude qui a été publié dans la revue Atmospheric Environment, qui a démontré que la pollution de l'air augmente en moyenne de 42% dans la zone où sont justement projetés ces feux d'artifice. Cette pollution contribue à la destruction de la couche d'ozone, mais pas seulement. Elle est remplie de microplastiques et de produits cancérigènes qui pénètrent directement dans nos voies respiratoires, et notamment le perchlorate relâché, qui est aussi connu pour affecter la thyroïde. Cette pollution, elle retombe ensuite au sol, ça s'écoule dans les eaux, ça s'infiltre dans les sols, et les plantes, et notamment les plantes, il y a aussi nos cultures, bien sûr, il y a les animaux, et puis aussi l'homme, bien sûr, qui finissent par ingérer d'une manière ou d'une autre tous ces polluants. Il y a certains fabricants qui proposent désormais des feux d'artifice éco-friendly, c'est-à-dire plus écologiques, moins de produits chimiques, et qui génère moins de fumée, du nitrogène au lieu du soufre par exemple, mais aussi du papier biodégradable au lieu du plastique, et donc leur impact sur l'environnement est moins important mais pas anodin, parce qu'ils relâchent tout de même des particules fines, d'autres produits chimiques et des débris dans la nature. Ça veut dire quoi tout ça au niveau de cet article? Bon, quelque part, j'allais dire, c'est pas nécessairement une nouveauté, on n'apprend pas nécessairement beaucoup de choses à la lecture de cet article, parce qu'on se doute bien que les feux d'artifice ne sont pas nécessairement, je dirais, une source de choses qui sont bons pour la planète. Peut-être qu'il va y avoir de plus en plus une remise en cause de l'utilisation des feux d'artifice et d'essayer de décliner sous une autre forme ces spectacles, c'est à voir. Ça peut être intéressant à suivre, bien évidemment. Autre article qui relaie une étude publiée dans la revue Geophysical Research Letters. C'est une étude qui s'intéresse au lien entre le réchauffement climatique et la sécurité aérienne. En fait, les scientifiques, ils ont analysé des données assez importantes, notamment en termes de durée, parce que l'étude, elle porte sur 44 ans. L'idée, c'était de comprendre l'évolution des turbulences aériennes en Europe, des phénomènes qui sont souvent imprévisibles et qui posent des enjeux majeurs pour la sécurité des passagers et les coûts, bien sûr, des compagnies aériennes. C'est ce qu'explique l'un des auteurs, qui s'appelle David Defaranda. En fait, ces turbulences, en particulier celles de l'air clair, représentent une menace croissante pour la sécurité des vols. L'instabilité des courants G, qui est amplifiée par le réchauffement global, eh bien, tout ça élargit les zones touchées par ces phénomènes. Ça augmente les risques pour les passagers et les équipages. Et donc, on considère que 71% des accidents aériens liés à la météo sont causés par des turbulences. Et le problème principal de ces turbulences, c'est qu'il n'y a aucun avertissement avant. Malgré les progrès de la météorologie, eh bien, ces turbulences restent imprévisibles et elles surprennent toujours. Les résultats montrent que les turbulences en avion sont en nette augmentation, en particulier dans certaines zones. Ces turbulences, elles augmentent considérablement, c'est ce que précise donc David Efferanda. Et sur cette période de 1979 à aujourd'hui, la probabilité de turbulences modérées ou fortes dans l'air a presque triplé, c'est quand même assez important, passant de 1,5 à 4% dans certaines régions clés. Il y a trois zones aériennes qui sont particulièrement touchées, l'Atlantique Nord, l'Europe du Nord et le bassin méditerranéen, avec des variations saisonnières qui sont assez marquées. Elles sont plus fortes en hiver et plus faibles en été, c'est ce qu'explique ce chercheur du CNRS. L'espace aérien du Royaume-Uni est celui dans lequel la plus forte augmentation des turbulences a été constatée. Et derrière ce constat, une évidence, hein, il faut trouver des moyens pour prévoir ces turbulences amenées à se multiplier dans le futur. Et donc ce chercheur estime qu'il faut, je cite, « développer des outils de prévision avancés capables d'anticiper ces turbulences, adapter les stratégies de vol pour minimiser les risques et limiter les coûts opérationnels ». Et donc en arrivant à mieux comprendre le lien entre le changement climatique et la circulation atmosphérique, eh bien, l'avenir de l'aviation sera plus sûr. C'est ce qu'ils expliquent, hein, ces auteurs. Mais effectivement, c'est assez intéressant de voir que ces risques de turbulence en avion, ça a triplé en un peu plus de 40 ans. Et du coup, voilà, on est sur une vraie problématique qu'il va falloir gérer, bien évidemment, sur quelque chose, sur un phénomène qui est pour l'instant un peu imprévisible et indétectable. Donc c'est un véritable enjeu pour les compagnies aériennes, bien évidemment, et donc derrière, un véritable enjeu pour la science. Vous écoutez Biotine, l'émission d'actualité scientifique sur l'antenne de Graphite. On feuillette la revue de presse de l'actualité scientifique, et puis on écoute aussi un peu de musique, parce que ça nous fait du bien sur l'antenne. À tout de suite. Verstats, c'était Schrag sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Biotine tous les samedis entre 12h et 13h pour vous tenir informé de l'actualité scientifique. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il n'y avait aucune, aucune cohérence avec les différents articles que nous allons évoquer. Et donc là, on va parler un peu de médecine. Le diabète de type 2, les maladies cardiovasculaires, figurent parmi les principales causes de décès dans le monde. Et parmi les facteurs de risque mis en avant par les scientifiques et les nutritionnistes, c'est la consommation excessive de boissons sucrées, qui est particulièrement pointée du doigt. Rapidement digérées, elles entraînent des pics de glycémie, et lorsqu'elles sont consommées régulièrement, elles favorisent des problèmes de santé graves, et donc notamment ces maladies de diabète et de maladies cardiovasculaires. Il y a une nouvelle étude qui a été publiée au début du mois de janvier dans la revue Nature Medicine, qui a été menée par des chercheurs de l'université Tufts aux États-Unis. Cette étude révèle que plus de 2 millions de nouveaux cas de diabète et plus d'un million de nouveaux cas de maladies cardiovasculaires surviennent chaque année dans le monde en raison de la consommation de boissons sucrées. Les pays comme la Colombie, le Mexique, l'Afrique du Sud se trouvent particulièrement touchés. En Colombie, près de la moitié des nouveaux cas de diabète sont attribuables à la consommation de boissons sucrées. Au Mexique, c'est près d'un tiers des nouveaux cas de diabète qui y sont liés. En Afrique du Sud, il y a près de 28% des nouveaux cas de diabète qui sont également causés par ces boissons. En Afrique subsaharienne, elle cause plus de 21% de nouveaux cas de diabète. Et puis enfin, en Amérique latine et dans les Caraïbes, elle contribue à près d'un quart des nouveaux cas de diabète. Donc les boissons sucrées, elles sont largement commercialisées. Elles sont vendues dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires. Alors non seulement ces communautés consomment des produits nocifs, mais elles sont aussi souvent moins bien équipées pour faire face aux conséquences sanitaires à long terme. C'est ce qu'explique Dariush Mozaffarian, qui est l'auteur principal de cette étude. Les chercheurs, en fait, ils appellent à des interventions urgentes, notamment des campagnes de publicité, des campagnes de santé publique, notamment une régulation de la publicité pour les boissons sucrées et des taxes sur ces produits. Et donc, il y a certains pays comme le Mexique qui ont déjà mis en place des taxes sur les boissons sucrées, avec des résultats qui, apparemment, d'après cette étude, paraissent prometteurs. Cependant, il y a des efforts nécessaires qui sont supplémentaires, qui sont nécessaires, je vais y arriver, notamment dans les pays d'Afrique et d'Amérique latine, parce que là-bas, la consommation, elle reste très élevée. Les conséquences sanitaires sont particulièrement graves. Donc voilà, encore une étude supplémentaire qui fait un lien immédiat entre la consommation excessive de boissons sucrées et le fait d'avoir des maladies type diabète ou maladies cardiovasculaires. Donc elles sont véritablement dangereuses, ces boissons sucrées, en tout cas plus dangereuses qu'on ne le pensait, parce que là on a quand même des chiffres assez inquiétants. On va partir du côté de l'Amazonie, et notamment dans un lieu qui est sacré pour les peuples autochtones d'Amazonie. Et en fait, on peut le comprendre quand on se rapproche d'une certaine rivière qui s'appelle Chané-Timchica. Elle est connue aussi sous le nom de la Bomba, et elle est presque en ébullition, impossible d'y plonger un doigt. Mais un thermomètre que l'on peut plonger va relever que ces eaux fumantes possèdent une température qui peut aller de 45 à 86 degrés Celsius quand même pour une rivière. C'est assez étonnant, assez troublant. Des rivières chaudes, il en existe de nombreuses dans le monde, notamment en Islande, mais cette rivière Chané-Timchica, ça reste un vrai mystère, et pour cause, parce que contrairement à toutes les autres, elle n'est pas associée à une activité volcanique. Là où il y a une activité volcanique, on peut avoir des sources d'eau chaude. Donc ça peut donner des rivières, ça peut donner des lacs, ça c'est connu. Là, ce n'est pas le cas. Il n'y a pas d'association avec une activité volcanique. Alors habituellement, on se dit que... normalement, on trouve une réponse. Et là, c'est un peu bizarre parce que cette rivière, elle s'écoule au milieu de la forêt amazonienne, au Pérou, à plus de 700 km du prochain volcan actif. Donc c'est un vrai casse-tête pour les géologues qui ne parviennent pas pour l'instant à expliquer clairement le phénomène. Alors, pour les chamans, la rivière est associée à Yuka Mama, qui est un esprit à la forme de serpent géant qui représente la mer des eaux. C'est une explication, bien sûr, qui ne va pas satisfaire les scientifiques. Il y a des recherches qui ont donc été menées sur cette rivière avec l'accord des chamans. Les résultats laissent penser que les eaux de pluie s'infiltrent dans la région à grande profondeur dans la croûte via un réseau de fractures. Et la température augmente naturellement avec la profondeur. C'est ce qu'on appelle le gradient géothermique. C'est-à-dire que plus on s'enfonce dans la terre, plus la terre est chaude. Et donc les scientifiques estiment que l'eau, elle pourrait descendre jusqu'à près d'un kilomètre 400 pour être suffisamment chauffée avant de remonter rapidement en surface par une faille. C'est ce que rapporte notamment Andrés Russo, qui a travaillé sur ce sujet. C'est une explication, mais pour l'instant, on n'est pas nécessairement certain que ça soit la bonne explication. En tout cas, parallèlement aux études scientifiques, il y a un projet qui a été mis en route dans le but de protéger ce site incroyable et sacré pour les peuples natifs d'Amazonie, donc cette rivière Chané-Timchica, où on peut avoir une température qui va jusqu'à 86 degrés. C'est quand même assez étonnant. Alors, il y a quelques photos que vous pouvez voir. Là, je crois que c'est sur un article de Futura où on voit une photo justement de cette rivière. C'est vrai que c'est une rivière, enfin, c'est même une vidéo, il me semble, de mémoire, où on voit effectivement une rivière chaude, c'est-à-dire presque c'est en train de bouillir, en tout cas pas loin, mais c'est assez troublant et on n'a pas d'explication. Donc écoutez, on va essayer de voir la suite. Il y aura des études qui vont être engagées pour essayer d'en savoir un petit peu plus, bien évidemment. C'est assez troublant, c'est assez intéressant et on essaiera de suivre cela, bien évidemment. Alors, on va parler cette fois des animaux et il y a bien un animal sur lequel on n'aurait pas pensé, c'est la pieuvre. L'idée que les pieuvres puissent succéder à l'humanité comme espèce dominante sur Terre, c'est un peu fantaisiste à première vue. Pourtant, il y a des chercheurs éminents, dont le professeur Tim Coulson de l'université d'Oxford, qui soutiennent cette hypothèse un peu intrigante. Leurs arguments reposent sur les capacités exceptionnelles de ces créatures marines, ces pieuvres, qui pourraient leur permettre de s'adapter et d'évoluer dans un monde après la disparition de l'homme. Alors, quelles sont les raisons qui font des pieuvres bien de sérieuses prétendantes au trône de la Terre? Eh bien, c'est qu'elles ne sont pas seulement des créatures passionnantes à observer, elles possèdent également une intelligence remarquable qui les place parmi les êtres les plus brillants de la planète. Leur capacité à résoudre des problèmes complexes et à manipuler des objets avec précision témoigne d'un potentiel cognitif assez exceptionnel. L'un des aspects les plus intéressants de l'intelligence des pieuvres réside dans leur système nerveux décentralisé. Parce que contrairement aux humains, le cerveau centralise toutes les fonctions cognitives. Eh bien, les pieuvres, elles disposent d'un espèce de réseau de neurones répartis dans l'ensemble de leurs tentacules. Et cette particularité, ça leur confère un peu une flexibilité, une autonomie assez remarquable. Ça va leur permettre de coordonner des mouvements plutôt complexes. Ça va leur permettre de manipuler plusieurs objets simultanément. Et ça va leur permettre de réagir rapidement à divers stimuli environnementaux. Et donc, cette intelligence distribuée, elle pourrait constituer un avantage évolutif majeur dans un monde qui est en constante mutation. Les pieuvres pourraient ainsi s'adapter plus rapidement que d'autres espèces au changement de leur environnement, qu'il soit d'origine naturelle ou anthropique, c'est-à-dire dû par l'homme. Alors, au-delà de leur intelligence, les pieuvres, elles possèdent une capacité d'adaptation exceptionnelle qui pourrait leur permettre de prospérer donc dans ce monde après l'homme. Elles ont une morphologie flexible qui leur permet de survivre dans une grande variété d'habitats. Et puis un aspect particulièrement intéressant du fait qu'elles peuvent s'adapter, c'est leur capacité à respirer hors de l'eau pendant des courtes période. Et cette caractéristique qui est combinée à leur intelligence, ça ouvre la porte à des scénarios d'évolution plutôt captivants. Et donc le professeur Tim Coulson, ou Coulson peut-être d'ailleurs, imagine même que ces créatures pourraient à long terme développer des appareils respiratoires similaires à notre équipement de plongée. C'est-à-dire que ça leur permettrait d'explorer de nouveaux horizons terrestres. Alors, les primates, ils ont été longtemps considérés comme les successeurs naturels de l'humanité. Et bien donc, les scientifiques remettent en question cette hypothèse. Et donc, le professeur Coulson argue que les primates seraient tout aussi vulnérables que nous face aux menaces environnementales, notamment le changement climatique. Et les primates dépendent fortement de structures sociales complexes pour leur survie, ce qui pourrait devenir un handicap dans un monde qui serait un peu perturbé. Et à l'inverse, les pieuvres, elles présentent des vrais avantages. Une indépendance accrue, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas besoin de communautés structurées pour prospérer. Elles ont une adaptation rapide parce que leur cycle de vie court, ça permet une évolution plus rapide. Elles ont une résilience environnementale, c'est-à-dire qu'elles peuvent survivre dans des conditions qui sont variées, qui sont changeantes. Donc c'est assez, c'est un bon point pour elles. Et ces caractéristiques confère aux pieuvres une flexibilité évolutive supérieure, ce qui leur permet potentiellement de s'adapter plus efficacement à un monde après l'homme que les primates ou les autres espèces considérées comme évoluées. Alors l'idée d'un monde dominé par les pieuvres, ça soulève bien sûr de nombreuses questions plutôt captivantes. Comment une civilisation de pieuvres, de céphalopodes, parce que c'est le nom de leur espèce, eh bien, comment une civilisation pourrait-elle se développer? Quelles seraient les implications pour l'écosystème terrestre? Et bien que cette hypothèse reste bien évidemment spéculative, eh bien, elle invite un peu à réfléchir sur la fragilité de notre propre domination sur la planète et sur les capacités à soupçonner d'autres espèces. Elle souligne également l'importance de la préservation de la biodiversité, parce que nous ne pouvons prédire avec certitude quelles espèces pourraient jouer un rôle crucial dans l'avenir de la Terre. Alors, Que les pieuvres, elles deviennent ou non les futures dominatrices de la planète, eh bien cette étude rappelle la complexité et la recherche du monde vivant et notre responsabilité dans cette préservation. Mais voilà un article assez intéressant qui explique donc que les pieuvres pourraient régner en maître absolu si l'humanité disparaît. Et c'est donc des hypothèses qui sont prises au sérieux. Voilà, on n'aurait pas cru hein, finalement, mais pourquoi pas. La pieuvre est peut-être l'avenir de l'homme. C'est un beau slogan, je trouve ça. Allez, on écoute un peu de musique sur l'antenne de Graphite et puis on se retrouve pour continuer à feuilleter la revue de presse de l'actualité scientifique. À tout de suite.
Déambule dans ses vêtements d'escale, qui se souvient d'hier, de totems inouïs qui balançaient leur tête. Je prends la nuit, l'âme prête pour l'exactitude, au rendez-vous de tout ce qui se tait. Je prends la nuit, je veille sur toi, j'endors tes blessures. Magistrales, les dédales ferroviaires lancent leur traînée de rouille tout autour des villes bancales. Des frontières lacèrent des coteaux. Des amants écrivent leurs messages avec des cailloux blancs pour habiller l'absence de comètes. Des vieux chuchotent des mots d'amour à la mer. L'âme prête pour l'exactitude, au rendez-vous de tout ce qui se tait. J'endors tes blessures. Je prends la nuit, déshabille l'histoire de sa robe d'athlète. Je prends la nuit, je veille sur toi, j'endors tes blessures.
Je prends la nuit, c'était Lojo sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Biotine tous les samedis entre 12h et 13h, la rediffusion le mardi matin à 10h sur l'antenne de Graphite, sur le 94.9 pour ceux qui nous écoutent sur la bande FM, graphite.net pour ceux qui nous écoutent sur internet en direct ou en différé, parce qu'il y a la possibilité bien sûr de récupérer les podcasts de toutes les émissions de Graphite sur le site internet graphite.net et puis désormais disponible sur l'application Radio Player France, ce qui vous permet voilà, de nous écouter maintenant directement avec votre portable. Alors, question, l'avenir du tourisme spatial commence en 2025 et à quoi peut-on vraiment s'attendre ? 2025, hein, eh bien, c'est le secteur du tourisme spatial qui devrait connaître des avancées significatives, notamment dans la stratosphère terrestre, c'est-à-dire à environ 30 km de la surface. Alors, bien qu'il ne s'agisse pas de véritables vols dans l'espace, eh bien, ces auteurs offrent une opportunité unique de découvrir, bah, par exemple, l'obscurité du cosmos ou la courbure de la Terre. C'est vrai que les images doivent être magnifiques. Cette expérience sera accessible à un public beaucoup plus large, permettant ainsi à de nombreuses personnes de vivre une aventure inédite et d'apprécier la beauté de la Terre depuis des altitudes plutôt impressionnantes, bien sûr. Dans quelques mois, les premiers vols en ballon stratosphérique devraient débuter avec deux sociétés françaises qui se démarquent, Zefalto et Stratoflight. Alors, Zefalto, qui a réalisé avec succès un vol d'essai habité en octobre dernier, eh bien, cette entreprise prévoit de démarrer son activité commerciale cette année. Ses ambitions vont au-delà du simple tourisme, hein, ça intègre également une dimension scientifique. Et donc l'autre entreprise, la start-up Stratoflight, elle développe un système de transport stratosphérique innovant. L'idée phare, c'est de créer une capsule équipée d'une plateforme extravéhiculaire. Ce qui serait semblable à un balcon, ça permettra aux voyageurs de sortir dans l'espace. C'est quand même totalement fascinant. Chaque passager devra utiliser une combinaison pressurisée. Et donc Stratoflight s'apprête à réaliser un jalon majeur avec un vol de test prévu pour le premier trimestre 2025. Donc c'est vraiment en cours, c'est imminent. Dans le secteur des vols privés, il y a Axiom Space qui envisage deux missions avec SpaceX. La première est prévue au printemps et va transporter un équipage de 4 astronautes, dont notamment un membre de l'agence spatiale indienne, un astronaute hongrois et un astronaute polonais de l'agence spatiale européenne. Et la seconde mission qui était initialement programmée vers la fin de cette année, elle pourrait être décalée à l'année prochaine, 2026. L'entreprise SpaceX prévoit, elle, deux rotations d'équipage avec le lancement de Crew 10 fin mars et de Crew 11 en juillet. Et pour des raisons de problèmes techniques rencontrés par le Starliner lors de son vol vers la Station Spatiale Internationale en juin dernier, il y a eu des fuites d'hélium et puis il y a eu divers dysfonctionnements du système de propulsion, bien, la NASA avait décidé de ne pas faire revenir les deux astronautes à bord du véhicule. Ce qui devrait être un séjour initial de seulement 8 jours s'est ainsi transformé en une mission prolongée de plus de 10 mois. Donc ils vont pouvoir revenir, tant mieux. Concernant le Starliner de Boeing, eh bien, son sort, lui, reste incertain. Il y a un vol opérationnel qui est prévu en fin d'année avec un équipage de 4 personnes, mais l'annonce de la vente de la branche spatiale de Boeing soulève des questions quant à l'avenir des projets liés à cette capsule. Donc, c'est à suivre. En parallèle, SpaceX s'apprête à lancer Fram2, sa première mission humaine en orbite polaire pour observer la Terre. C'est prévu également pour la fin de l'année. Cette mission privée, qui ne sera pas touristique, nous dit-on, va embarquer un équipage de 4 personnes, également une charge utile. L'objectif principal sera de mener un programme scientifique sur les interactions atmosphériques, l'étude des phénomènes lumineux et la santé des astronautes. Elle est opérée par SpaceX, qui va travailler sur ce sujet-là. Un autre projet prometteur cette année, c'est le lancement du module habitable de la société américaine Vast, qui sera transporté à bord d'un Falcon 9 de SpaceX. Encore, décidément, SpaceX, cette année, ça va bien fonctionner. Et donc, cette station, bien que de taille modeste, va offrir un volume habitable de 45 mètres cubes et pourra accueillir jusqu'à 4 astronautes encore d'une durée de séjour de 30 jours. Il y a un premier équipage qui la rejoindra seulement quelques semaines après sa mise en orbite et il la rejoindra à bord d'une capsule Crew Dragon. Ce module, c'est une station spatiale plus grande prévue en 2028 ce module préfigure une station spatiale plus grande qui, elle, est prévue en 2028. Ça va évoluer à une altitude de 425 km au-dessus de la Terre quand même, c'est quand même pas négligeable. Et ça offre ainsi des conditions idéales pour des expériences scientifiques et des activités en microgravité. Enfin, cette année, la Chine est également présente et elle prévoit deux vol en mai et en novembre à destination de sa station spatiale chinoise. Parallèlement, il y a deux rotations d'équipage vers la station spatiale internationale qui seront réalisées avec des vaisseaux Soyouz, donc des vaisseaux russes. La Russie sera également présente. Ces missions témoignent de la continuité de la coopération spatiale entre la Russie et les États-Unis. Donc la géopolitique est également présente, mais là ça fonctionne plutôt bien. Ça demeure solide, hein, cette cette coopération, malgré un petit peu les défis géopolitiques qui existent, cette collaboration est cruciale pour le bon fonctionnement de la Station Spatiale Internationale et le maintien des opérations habitées en orbite. L'année 2025 va être une année géniale dans une décennie où je vous ai dit très très souvent que c'était une décennie fondamentale au niveau de l'espace. Mais là, cette année va être assez intéressante et notamment avec l'essor de ce tourisme spatial. Alors, on suivra ça bien sûr tout au long de cette année, de voir ces missions qui vont être lancées. Et puis, je ne sais pas, ne serait-ce que d'avoir une idée du prix. Alors, je n'ai pas regardé, mais je vais m'enseigner. Je ne me rends pas compte combien ça peut coûter un vol comme ça, où on monte à 30 km d'altitude et on voit la Terre. Ça va être fascinant quand même, quelque part. Mais bon, à voir, à suivre, bien sûr. Tiens, un peu d'argent. On va parler d'argent. Avec ce convoi de 12 navires espagnols qui ont quitté Cuba en direction du nord de l'Atlantique. C'était pas aujourd'hui, c'était en juillet 1715. Il y a eu un ouragan à l'est des côtes de la Floride et sur ces 12 navires, il y a 11 bateaux qui ont coulé et ils ont emporté par le fond un trésor colossal. À bord, des milliers de pièces et de bijoux en or et en argent. La valeur était estimée à 400 millions de dollars. En 2015, donc nous sommes 300 ans après, un navire de récupération remontait 51 pièces d'or et 12 mètres de chaîne dorée. La valeur du butin, c'était 1 million de dollars. Donc il reste quand même pas mal de choses encore dans l'eau. Les mésaventures autour de la précieuse cargaison ne s'arrêtent pas là. En fait, il y a eu quelques problématiques assez, de soupçons, de malversations de la part de certaines compagnies privées. Enfin bref, c'était assez compliqué parce que oui, peut-être que certains s'en sont mis dans la poche pendant qu'ils allaient récupérer des choses. En tout cas, il y a une enquête qui a été lancée par le FBI et qui permettait récemment de déterminer que la famille Schmidt, qui avait exhumé 50 pièces de plus qu'initialement déclaré, s'en était mis un petit peu dans les poches. Et il y a eu plusieurs doublons d'or qui ont été vendus lors d'enchères privées. Donc, ils ont montré ce qu'ils avaient récupéré, mais ils n'avaient pas tout montré. Donc, ils en avaient gardé un petit peu sous le coude. Et il y a eu un fait constitutif de vol, selon les autorités américaines. Et il y a donc eu 1 million de dollars en pièces d'or qui ont été volées. Et bien, qui a été retrouvé, ce million de dollars, de cette épave de 1715 qui refait surface. C'est un article fascinant que vous pouvez lire, notamment dans Futur et dans Sciences et Avenir également, de ce trésor qui refait surface. Mais oui, qu'est-ce que vous voulez? Il y a encore, mais dans les fonds marins, il doit y avoir des choses fascinantes qu'on ne découvrira jamais d'ailleurs. C'est une vraie frustration quelque part et c'est un peu dommage. Et puis comme on était vraiment dans l'histoire, on va encore aller beaucoup plus loin et on va parler de l'Empire romain. Dans l'Empire romain, le plomb était omniprésent. Il y a certains chercheurs qui se demandent même si une intoxication au plomb aurait pu causer la chute de l'Empire romain. Une étude récente menée par des scientifiques du Desert Research Institute vient renforcer l'idée que ce métal, ce plomb, aurait bien pu avoir un impact sur les populations de l'époque. Cette étude a été publiée début janvier dans la revue Proceedings of the National Academy of Science. Ce qu'on décrit, l'acronyme c'est le PNAS, pour ceux qui connaissent ce genre de revue. Donc c'est quand même une revue assez sérieuse. Et donc l'étude révèle que la pollution au plomb durant l'Empire romain aurait entraîné une diminution moyenne du quotient intellectuel de 2 à 3 points chez les populations de l'époque, en particulier chez les enfants. Et donc, ils ont analysé les carottes de glace prélevées dans l'Arctique, et les chercheurs ont mesuré les niveaux de pollution au plomb entre 500 ans avant Jésus-Christ et 600 ans après Jésus-Christ. Donc on est sur une période quand même assez conséquente. Et cette période, elle couvre l'ascension et la chute de l'Empire romain. Et cette période a atteint son apogée en matière de pollution durant la Pax Romana. C'est une époque de prospérité et de stabilité. Grâce aux isotopes du plomb, c'est-à-dire qu'on peut repérer du plomb dans ces calottes glaciaires, on peut identifier les principales sources de pollution. Les activités minières et principalement la fonte de la galène, qui est un minerai riche en plomb, utilisé pour extraire de l'argent, serait justement une des causes de la production et de la présence de ce plomb. Le traitement de chaque pièce d'argent générait des millions, des milliers de particules de plomb libérées dans l'atmosphère. Des modélisations informatiques ont permis de cartographier la dispersion de cette pollution sur toute l'Europe. Environ 500 kilotonnes de plomb ont été émises au cours des deux siècles d'apogée de l'Empire romain. En fait, l'exposition au plomb, même à faible dose, ça a des effets dévastateurs sur le développement cognitif, notamment chez les enfants. Même de faibles niveaux d'exposition ont été associés à une réduction du quotient intellectuel. Et ici, les chercheurs ont calculé que les niveaux de plomb dans le sang des enfants à cette époque pourraient avoir augmenté de... augmenter de façon quand même assez significative, ce qui aurait donc causé une réduction du quotient intellectuel de 2 à 3 points. Le plomb est connu pour avoir un large éventail d'effets sur la santé humaine, mais nous avons choisi de nous concentrer sur le déclin cognitif, parce que c'est quelque chose que nous pouvons chiffrer, c'est ce qu'explique Nathan Shellman, qui est donc l'une des... rédactrice de cette étude. Une réduction du quotient intellectuel de 2 à 3 points ne semble pas énorme, mais lorsqu'on l'applique à l'ensemble de la population européenne, c'est vraiment une grosse affaire, dit-elle. Et les effets sanitaires liés au plomb ne se limitent pas au cerveau. Chez les adultes, il y a une exposition prolongée qui est associée à des troubles cardiovasculaires, des problèmes de mémoire et un risque accru de cancer et d'infertilité. Il y a des études antérieures qui avaient déjà mis en évidence une contamination significative des eaux du Tibre dû aux canalisations en plomb, ce qui double la concentration naturelle de ce métal dans le fleuve. Cependant, les niveaux relevés n'étaient pas suffisants pour constituer un risque majeur pour la santé des Romains. Eh bien, la nouvelle étude là, qui vient d'être éditée fournit des chiffres qui suggèrent des taux potentiellement dangereux. Donc, quel que soit l'impact du plomb sur la santé des populations de l'époque, la Rome antique fournit le premier exemple de pollution humaine de l'environnement à grande échelle. Et donc, elle explique, cette responsable d'étude, je laisse aux épidémiologistes et aux historiens le soin de déterminer si et dans quelle mesure elle a changé l'histoire. Voilà, la pollution au plomb aurait peut-être fait chuter le quotient intellectuel des Romains et donc peut-être quelque part avoir un impact sur la chute de l'Empire romain. C'est un article qui est quand même assez, je trouve, intéressant, assez troublant, bien évidemment. Mais voilà, qui pose question, bien sûr. Allez, on écoute encore un petit titre sur l'antenne de Graphite. À tout de suite.
Trying to let you through the blue door. However, trying
However, c'était Melanxis sur l'antenne de Graphite. Bienvenue sur Graphite. Vous écoutez Biotine pour ceux qui nous rejoignent. J'ai perdu ma voix, c'est bien compliqué. Biotine, c'est l'émission d'actualité scientifique. Et donc, on feuillette comme ça la revue de presse de l'actualité scientifique. Avec cet article au niveau santé assez troublant. La consommation excessive d'alcool chez les femmes est-elle liée aux œstrogènes? C'est ce que suggère une étude qui a été publiée dans la revue Nature fin décembre. Concrètement, la présence en grande quantité d'œstrogènes, l'œstrogène c'est l'hormone qui est produite par les ovaires, qui est liée au cycle menstruel, eh bien cette présence en grande quantité pousserait les femmes à consommer davantage d'alcool, surtout dans les 30 minutes qui suivent la première gorgée. En 2021, déjà, le docteur Kristen Play, qui est professeur associé en pharmacologie à New York, et son équipe avaient montré qu'un groupe de neurones d'une région du cerveau assez spécifique était plus excitable chez les souris femelles que chez les mâles, une activité accrue qui était corrélée à une consommation excessive d'alcool. Et pour expliquer ce mécanisme, eh bien, les chercheurs avaient surveillé les niveaux d'hormones tout au long du cycle chez les souris femelles. Pourquoi suivre cette piste? Eh bien, les œstrogènes ont des effets si puissants sur de nombreux comportements particuliers chez les femelles. Il était donc logique qu'ils modulent également la consommation d'alcool. Et donc, de l'alcool a ainsi été donné aux souris femelles. Et les chercheurs ont découvert que plus celles-ci présentaient un taux élevé d'œstrogène, plus elles buvaient d'alcool. Et cette espèce de boulimie, entre guillemets, est effectivement corrélée à une activité accrue des neurones dans cette zone spécifique du cerveau. Lorsqu'une femelle prend sa première gorgée d'alcool, ses neurones deviennent fous, c'est ce qu'expliquait le docteur Play. Si elle présente un niveau d'œstrogène élevé, ils deviennent encore plus fous. Cette activité neuronale supplémentaire inciterait donc les souris femelles à boire davantage, et en particulier dans les 30 minutes qui suivent la première gorgée. Et donc les scientifiques, ils ont réussi à montrer comment les œstrogènes devenaient le chef d'orchestre du comportement de la souris. Celui-ci se lie à des récepteurs spécifiques à la surface des neurones, et ça va moduler directement la communication entre les cellules. Et donc, le docteur Play explique, nous pensons que c'est la première fois que quelqu'un démontre que pendant un cycle normal menstruel, eh bien, l'œstrogène produit par les ovaires peut utiliser un mécanisme aussi rapide pour contrôler le comportement. Et donc, inhiber cette enzyme qui synthétise les œstrogènes pourrait constituer un traitement contre la consommation excessive d'alcool lorsque les niveaux d'hormones sont au plus haut. Eh bien, ce médicament a été approuvé par la FDA, j'ai oublié le nom, on va dire que c'est l'agence administrative américaine qui permet de mettre sur le marché des médicaments. Donc quelque part, ils ont la possibilité de pouvoir justement commercialiser ce traitement qui notamment a été à destination du traitement des femmes atteintes d'un cancer hormonodépendant. L'association de ce médicament avec des composés qui modulent les effets en aval des substances chimiques produites par des neurones spécifiques dans cette zone du cerveau. L'idée, en fait, ça pourrait potentiellement fournir une nouvelle approche ciblée pour le traitement des troubles liés à la consommation d'alcool. Nous en savons beaucoup moins sur ce qui motive la consommation d'alcool chez les femmes, car la plupart des études ont été réalisées sur des hommes. C'est ce qu'explique justement le docteur Kristen Splail. Et ce, alors que les femmes sont plus sensibles aux effets négatifs de l'alcool sur la santé que les hommes. Et donc la consommation excessive d'alcool peut avoir des conséquences graves. À court terme, elle altère le jugement, elle augmente les risques d'accidents, de blessures et de comportements imprudents, tout en provoquant des troubles gastro-intestinaux et des perturbations du sommeil. Et à long terme, bien sûr, on le sait, l'alcool augmente le risque de maladies cardiovasculaires, de cancer, de maladies du foie notamment. Et donc, cette étude américaine récente montrerait que les œstrogènes pousserait les femmes à boire de manière excessive dans les 30 minutes qui suivent la première gorgée. C'est une, comment dire, c'est assez, assez troublant, bien évidemment, ce genre d'étude, parce que on est, alors là, on était sur des modèles animaux et qu'on a fait ensuite un peu une extrapolation au niveau de la femme, mais voilà, c'est, ça peut poser question, bien évidemment, et si ça pose question, ça va être encore un champ d'investigation assez intéressant. Et peut-être qu'on en saura plus dans quelques temps, bien évidemment. On écoute un dernier titre et puis on aura quelques petites brèves comme ça que l'on peut trouver dans Science et Avenir qui sont assez intéressants. A tout de suite sur l'antenne de Graphite. Fukuda Shrag sur l'antenne de Graphite. Allez, rapidement, parce que c'est bientôt la fin de cette émission, ça passe tellement vite. Quelques petites brèves que l'on peut trouver dans Science et Avenir. Science et Avenir, c'est un magazine de vulgarisation scientifique et qui est plutôt bien fait, accessible, parce qu'il y a quelques petites brèves et des petits articles qui sont intéressants. Puis après, il y a des sujets un petit peu plus de... un peu plus approfondi, on va dire, mais il y a quand même une maquette qui est assez sympa, des schémas, des illustrations qui permettent justement d'avoir plusieurs entrées dans les articles. Donc c'est assez bien conçu et totalement accessible et adaptable pour le grand public. Et donc, il y a des pages, notamment au début, avec plein de petites brèves qui sont assez intéressantes parce qu'on apprend pas mal de choses, notamment un rapport de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques qui publie un chiffre assez alarmant de l'impact sanitaire de notre exposition aux microplastiques qui deviennent une partie intégrante de l'environnement. 0,5% de notre cerveau humain est constitué de plastique. Quand même assez affolant. Enfin, je veux dire, c'est 0,5%. Alors effectivement, 0,5%, c'est pas grand-chose en termes de chiffres. Mais de se dire que 0,5% de notre cerveau, c'est du plastique, c'est assez troublant et ça illustre parfaitement justement cette pollution aux micro et aux nanoplastiques dans notre environnement, bien évidemment. Courant novembre, ça c'est une autre petite brève, il y a eu des aurores boréales qu'on a pu observer dans le ciel du nord de la Norvège. Et puis soudain, il y a eu des étranges nuages en forme de rubans tourbillonnants qui ont été constatés. En fait, il s'agissait de volutes de triméthylaluminium. C'est un composé luminescent qui a été libéré par deux sondes pour une expérience de la NASA. L'objectif, c'était de mieux comprendre les mouvements et les flux d'énergie qui traversent la haute atmosphère jusqu'à 500 km d'altitude et d'avoir aussi une idée de l'influence de l'activité solaire. Donc il y a une image qui est assez fascinante de ces nuages qui ont été créés par la NASA pour pouvoir mieux les identifier, mieux les étudier notamment, et c'est assez étonnant. Une étude des tout premiers échantillons prélevés sur la face cachée de la Lune par la sonde chinoise montre que l'hémisphère sombre de la Lune était volcaniquement actif il y a environ 2 milliards d'années. Ces échantillons étaient récupérés en juin dernier au terme d'une mission totalement inédite et puis qui avait été quand même saluée de façon unanime. Et ces roches lunaires ont fait l'objet de deux analyses distinctes dans des études qui ont été publiées respectivement l'une par Nature, l'autre par Science. Donc on est sur des revues scientifiques de très haute volée, bien évidemment. Et l'âge de cette activité volcanique sur la Lune, mesuré par datation radiométrique, s'était révélé quand même plus jeune qu'attendu. On ne pensait pas en fait que cette activité volcanique était si récente, entre guillemets, parce qu'on en est à plus de 2 milliards d'années. Mais à l'échelle du temps géologique, c'est quand même assez court. Par ailleurs, les scientifiques ont pu estimer que les volcans étaient actifs sur la face cachée pendant au moins 1,4 milliard d'années. C'est-à-dire que l'activité volcanique, elle a eu lieu pendant un temps assez long. Ces premières analyses confirment des différences géologiques notables entre les deux faces de la Lune, celle que l'on voit et celle que l'on ne voit pas. Et c'est justement parce que les Chinois avaient envoyé une sonde sur la face cachée de la Lune qu'il était possible d'avoir un petit peu plus d'informations sur cet endroit de la Lune. Et donc là, on découvre des volcans sur cette face cachée de la Lune. C'est totalement fascinant. La suite est bien la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Biotine sur l'antenne de Graphite. Je vous souhaite de passer une très bonne journée et bien sûr, vous restez fidèles à l'ensemble de nos émissions sur l'antenne de Graphite. Bonne journée et à samedi prochain. À bientôt, au revoir.